Aujourd'hui, nous recevons donc Olivier Mongin. Il est directeur de la revue Esprit. Il co-dirige actuellement la collection La couleur des idées aux éditions du Seuil. Vous pouvez retrouver ses livres. Je cite les trois derniers. Vers la troisième ville, Hachette 1995. La violence des images, Essai sur les passions démocratiques au Seuil en 1997. Et enfin, l'après 1989, Les nouveaux langages du politique chez Hachette Littérature et c'est paru en 1998. Olivier Mongin, c'est à vous.
Merci beaucoup, Christophe Coffrand. Et merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Très impressionnant d'intervenir dans le cadre de cette université annuelle. Alors, pourquoi s'interroger sur ce thème, les rythmes urbains ? Je dirais que ça devrait nous permettre de mieux saisir la nature de la ville elle-même, cette ville classique dont on dit qu'elle a peut-être déjà disparu, enfin, cette ville qui associait les notions d'urbanité et de civitas, et donc, par contre-coup, de prendre en considération les rythmes d'un monde post-urbain qui est en train, nous dit-on, de se dessiner. Mais il ne suffit pas de dire cela, il faut se demander comment aborder la question des rythmes urbains. Or, là, nous n'avons que deux choix, et peut-être qu'il faudra pencher la balance envers le deuxième choix, en tout cas, c'est ce que je ferai. En effet, il y a un premier discours, celui que vous avez beaucoup entendu durant les premières séances de ce module qui se termine aujourd'hui sur la ville, qui est le discours de l'urbaniste, le discours de l'ingénieur. Il y a un second discours, c'est celui qui retiendra mon attention, c'est celui qui regarde la ville comme un écrivain la regarde, comme un poète la regarde, c'est-à-dire celui qui voit la ville comme une fiction, comme une poétique, etc. Je reprécise nos deux discours. Ou bien l'on valorise une approche qu'on pourrait dire macroscopique, celle qui associe l'urbain à un plan et à une maquette, celle qui valorise le dessin et le sens de la vue, celle qui donne lieu à des schémas directeurs, à des politiques urbaines, celle qui prend en compte des dispositifs, comme François Hacher vous l'a très bien montré durant sa conférence sur ce qu'on appelle déjà le méta-urbanisme. Ou bien, deuxième approche, qui sera la mienne, l'on met en avant un imaginaire de la ville, celui des passants, celui des passages, comme il y en a tant dans ce quartier, un imaginaire qui se confond, on va le voir, avec la posture du créateur, du poète et de l'artiste. Et je pense que cette deuxième approche nous permet, ça sera à moi de le prouver, de mieux comprendre ce qu'il en est d'un rythme urbain, pour autant que cela a encore du sens et qu'on peut le spécifier. Alors bien sûr, me direz-vous, ces deux approches, il ne s'agit pas de nier l'une au profit de l'autre ou au dépens de l'autre. La première, elle est prédominante, elle est marquée par le développement technologique et économique, c'est la plus progressiste. La seconde que je vais évoquer, ben, je vais évoquer des écrivains, Baudelaire, Claudel, des écrivains qui peuvent paraître passés. La seconde, elle peut apparaître sacrément nostalgique. Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, souvenez-vous, ceux qui ont eu l'occasion de visiter la grande exposition de Beaubourg en 1994, la grande exposition sur la ville, art et architecture en Europe, 1870-1993, se souviennent que cette exposition, eh bien, elle était double, coexistait durant toute l'exposition, d'un côté les artistes, les écrivains, les photographes et les cinéastes, et de l'autre des architectes, des ingénieurs et des urbanistes. Alors, la ville des artistes et la ville des ingénieurs urbanistes, y a-t-il là une opposition insurmontable ? C'est un peu ça qui est à l'objet de mon interrogation, d'où ce titre, les rythmes urbains, de la ville à la non-ville. Car la remarquable historienne de l'urbanisme, Françoise Chouet, nous dit que peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes déjà passés de la ville à la non-ville. Encore faut-il se demander ce que représentait le rythme urbain pour se demander également si l'urbanisme dit nouveau peut prendre en compte les rythmes propres à justement l'urbanité, que je ne qualifierais pas de classique et que je ne relirais pas nécessairement, même si je vais parler essentiellement de la ville européenne, 19e, début 20e, que je ne relirais pas à une ville parmi d'autres. Je pense qu'il y a une diversité de types de villes. Il y a donc là un parti pris dans cette conférence, c'est effectivement de privilégier, et vous verrez pourquoi, l'approche subjective, l'approche de la ville subjective, l'approche du poète, l'approche de la ville comme corps. Donc, privilégier la fiction, mais pour voir en quoi, après coup, ce que nous aurons appris manque ou non à la réflexion de l'urbanisme contemporain, qu'il ne s'agit pas du tout d'opposer a priori. J'interviendrai en trois temps. Dans un premier temps, j'évoquerai deux poètes pour reprendre de front l'image du corps. La ville est toujours associée à l'image du corps. J'évoquerai Claudel, qui a écrit dans Connaissance de l'Est des pages remarquables sur plusieurs villes, malheureusement trop vite, et j'évoquerai plus longuement Baudelaire, qui reste pour nous certainement celui qui nous enseigne le mieux ce que signifie le rythme urbain, un rythme urbain qui est indissociable, vous le verrez, d'un type de socialisation. Et c'est bien ça qui doit retenir notre attention. Deuxième temps, j'aborderai plus directement le problème du rythme en évoquant certainement celui qui a écrit l'un des plus beaux livres sur la ville, le grand écrivain Julien Gracq, qui a écrit un livre sur la ville de Nantes qui s'appelle « La forme d'une ville », qui est tout à fait impressionnant pour qui réfléchit sur ce qu'est une ville, une fois de plus, d'une manière qui ne veut pas être une manière objective, scientifique. J'évoquerai aussi un petit livre qui vient de ressortir de Jules Romain, qui s'appelle, le titre est très beau, « Puissance de Paris ». Et dans un dernier temps, troisième partie, j'essaierai de me demander si nous sommes vraiment entrés d'entrer dans un monde qui n'est plus un monde de la ville et du lieu, mais un monde des flux, ce monde des flux que la plupart des conférences sur l'urbanisme, dont celle de mon ami François Hacher, vous ont montré qu'il était prédominant. Or, faut-il opposer le lieu, le rythme urbain que je vais évoquer, au flux, ou est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, je dirais, des types d'associations, des concordances, où sommes-nous là devant une discordance ? Donc, parler des rythmes de la ville, premier temps, c'est évoquer un certain nombre d'images, et vous le savez aussi bien que moi, l'image qui vient immédiatement, c'était d'ailleurs déjà l'image grecque de la ville, c'est l'image du corps. La ville est considérée comme un corps où des membres, effectivement, peuvent vivre ensemble dans ce qui fait corps. Donc, il y a des corps individuels et un corps global. Et toute la réflexion de nos poètes va être effectivement de se demander comment des corps individuels, des petits corps, peuvent vivre dans un grand corps. Nous n'oublions pas également le rythme poétique, on le voit chez Baudelaire, est un rythme corporel qui correspond chez Baudelaire directement au rythme de la rue. Pour Baudelaire, la rue est la métaphore même du poème. On voit très bien donc que le poème, l'aspect corporel du poème, pour un poète de la fin du XIXe siècle, a quelque chose de très proche du rythme urbain. Je ne fais que citer très vite. Trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Je prendrai des exemples, bien entendu, liés à des poètes et à des écrivains, je l'ai déjà dit. Nous aurions pu, bien entendu, également évoquer les photographes. La photographie est indissociable de la naissance de la ville. Tout le monde peut penser à Jet. On peut aller voir aujourd'hui au Musée d'art moderne l'exposition sur Brassailles. On peut aussi penser au cinéma, dont le premier, dernier film, peut-être un film italien sur la ville, était le journal intime de Nanni Moretti, dont la Vespa parcourait Rome. On l'a encore entre toutes les têtes, dans toutes les têtes. Mais je reviens à l'opposition que souligne une fois, dernière fois François Choët. C'est qu'il faut bien voir que la question qui se pose là, dans le privilège que j'accorde à des poètes, à des écrivains, c'est qu'il y a nécessairement une vision subjective de la ville, qu'on ne peut pas penser la ville uniquement sous la forme d'une esthétique de la vision, en la réduisant comme un objet que je vois à distance. Alors me direz-vous, doit-on en rester à cette opposition classique entre le phénoménologue et le savant ? Certainement pas. Mais l'espace, comme dit François Choët, de notre quotidienneté urbaine, n'est pas vu d'avion, mais vécu à ras de terre. L'approche urbanistique méconnaît le fait qu'un espace urbain ne peut ainsi être perçu d'un coup, mais seulement dans la successivité des séquences fragmentaires au gré des temps et des parcours. Me direz-vous, pouvons-nous encore jouir de ces temps et de ces parcours ? C'est bien entendu la question qui est pendante. D'où mon choix de retenir trop vite quatre poétiques de la ville. La poétique de la ville, c'est le titre d'un très beau livre de Pierre Sansot. Quatre poétiques de la ville, très rapidement. Donc Claudel, puis Baudelaire, ensuite Gracq et Jules Romain. Très vite sur Claudel, dans Connaissance de l'Est, un texte trop méconnu, il distingue justement plusieurs villes, il compare plusieurs villes comme autant de corps articulés. Ces villes sont Paris, Londres, New York, Boston et Pékin. Je retiens simplement ce qu'il dit de Paris. Et il parle de chacune de ces villes, d'ailleurs, comme des corps qui peuvent grandir, qui peuvent mourir. Et là, ceux qui se souviennent des beaux textes de Lévi-Strauss dans Triste Tropique, où il montre qu'une ville peut mourir, il ne faut jamais l'oublier, une ville peut mourir, pas uniquement sous le coup des Kalachnikovs à Grozny, une ville peut mourir, ne l'oublions pas, l'urbicide est un phénomène guerrier, mais la ville qui meurt est aussi un phénomène qui apparaît peut-être insuffisamment dans notre société qui reste trop urbaine, les villes peuvent mourir. C'est bien pour ça que la remarque consistant à dire que la ville file la métaphore du corps n'est pas tout à fait anodine. Pour Claudel, Paris est perçu en fonction d'un mouvement d'expansion progressive. Ça ne vous étonnera pas, Paris, c'est une ville-île, c'est une île qui devient une ville en s'étirant à partir de son centre. C'est un corps qui n'en finit pas de grandir à partir de son centre. Paris, capitale du royaume, j'insiste pas sur le rôle de Paris, capitale, centre, dans son développement égal et concentrique, multiplie en l'élargissant l'image de l'île où il fut d'abord enfermé. Vous voyez donc, c'est un corps en expansion. À la différence, Londres est l'antithèse de Paris, car c'est une ville qui, selon Claudel, est une ville-corps qui n'a pas de centre, qui n'a ni milieu, ni axe. La ville de Londres est une ville qui est un conglomérat, un assemblage aléatoire d'éléments qui sont différenciés. Alors que Paris est un corps, on pourrait dire, qui digère tout ce qui se propose devant lui, Londres est au contraire une ville, et bien c'est la capitale industrielle, bien entendu, de la fin du 19e, c'est une ville qui assemble des éléments hétérogènes, on pourrait dire, c'est une fabrique, c'est un corps fabrique. Donc, d'organique à Paris, le corps urbain devient mécanique à Londres. Le corps de Londres, nous dit Claudel, est un corps industriel où la proximité des éléments, les uns à côté des autres, se traduit justement par cette volonté de production. Le corps de Paris, lui, n'en finit pas de se reproduire et non pas de produire en prenant de l'extension, de l'ampleur. C'est le centre, c'est la capitale. À côté de ces deux exemples, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long sur Claudel, il y a l'exemple de New York. De manière très intéressante, New York d'ailleurs qui apparaît comme la ville paradigmatique, ce n'est pas la ville dont la préposition majeure serait, comme pour Paris, au milieu d'eux, c'est-à-dire le centre à partir de tout de quoi commence, ou à côté d'eux, comme Londres. Pour New York, ce sera entre. Pour lui, pour Claudel, Paris, c'est la ville qui met en relation des éléments hétérogènes, non pas pour constituer une fabrique, mais au contraire pour produire un corps urbain. New York est une ville qui synthétise la capacité d'amasser et de produire de Londres et la force d'extension de Paris. On pourrait continuer toutes ces références au corps de la ville telles que l'évoque Claudel. Il évoque également Boston, qui pour lui est l'anti-New York, qui est une ville qu'il n'aime pas. Il évoque également Pékin, qui pour lui prend la forme de la ligne, c'est extrêmement intéressant, et pas uniquement en lien avec la graphie chinoise. Mais ce que nous retenons, c'est qu'il y a, pour l'écrivain, c'est le premier élément de notre réflexion, il y a autant d'articulations de corps que de villes. La ville est représentée globalement comme un corps qui s'articule. Notons cette notion d'articulation que nous allons retrouver, qui est centrale. Il y a diverses manières d'articuler et au sein de corps. Mais l'image du corps biologique, elle est éclairante. On pourrait la reprendre en disant que c'était aussi l'image haussmannienne, mais d'une autre manière, puisque Haussmann, lui, il a voulu assagir le corps sauvage de Paris. Mais on considérait là aussi, pour un haussmannien, la ville comme un corps qu'il fallait rendre hygiénique, qu'il fallait médicaliser, qu'il fallait sauver, d'une certaine manière, de la sauvagerie, de la barbarie que devait si bien représenter, dans les têtes bien entendu, à partir de 70, la commune, comme justement l'antiville haussmannienne. Donc vous voyez que cette image du corps hygiénique chez Haussmann, c'est une image qui renvoie à plusieurs figures chez Claudel. Mais nous n'allons pas en rester à cette idée que la ville, ça serait uniquement cette métaphore corporelle qu'on peut décliner différemment. Venons-en maintenant à Baudelaire, car l'intérêt de Baudelaire, c'est de revenir, de nous ramener au corps individuel. Et toute la question de Baudelaire, c'est que font nos corps individuels, nos subjectivités corporelles, matérielles, au sein de ces villes différentes, comme nous l'avons vu, au sein de ces villes corps qui sont différents. Pour Baudelaire, le problème, c'est que justement, la ville est marquée par des ruptures de rythme, des discontinuités, qui sont autant d'éléments de spleen pour l'individu, et que vivre dans la ville est menaçant et difficile. Vivre dans la ville, justement, exige de penser la possibilité de la rencontre. Mais tout le génie de Baudelaire, quand on regarde ses textes, c'est justement de penser l'errance urbaine en lien avec ce qu'on pourrait appeler la nécessité d'un bon rythme dans la ville. Pouvoir vivre dans la ville, c'est savoir vivre dans la ville. Vivre dans la ville, c'est d'abord se donner la possibilité d'une expérience, qui est l'expérience la plus quotidienne, la plus banale. La ville, c'est la banalité. La ville, elle est, c'est bien pour ça que d'aucuns n'aiment pas la ville. Elle peut paraître, justement, trop méprisable par des tas de biais. Pour Baudelaire, ce n'est pas ça. La ville, c'est la rencontre. De même qu'aujourd'hui, un grand connaisseur de jazz qui s'appelle un poète, Jacques Reda, écrit un beau livre qui s'appelle « Les ruines de Paris », où il va d'un quartier à l'autre au rythme du jazz. On peut aussi, effectivement, citer, on n'aurait pas le temps de le faire, de multiples écrivains qui retrouvent le rythme urbain en fonction de leur passion musicale. Mais la rencontre baudelairienne est une rencontre difficile. Pourquoi ? Parce que pour Baudelaire, il y a un double risque. Et nous allons voir revenir cette question en permanence. Soit on se perd dans un trop de solitude, c'est-à-dire dans un trop de privé, soit on risque toujours de se perdre dans ce qu'on appelle, avec Edgar Poe aussi, le labyrinthe de la masse. Donc vous voyez que la question que nous pose Baudelaire, ce n'est pas simplement la question de se lever dans cette ville qui est un corps, comme nous a dit Claudel. La question que pose bien Baudelaire, c'est quel rythme trouver dans la ville pour ne pas être trop seul et pour ne pas se laisser prendre dans la masse. Vous me direz, c'est peut-être des questions plus liées au XIXe siècle. Reste qu'elles ont toujours du sens aujourd'hui. Et donc sa question, c'est quelle est effectivement la bonne association, la bonne mise en relation que nous pouvons trouver dans la ville ? Je vais citer un passage des petits poèmes en prose. Les foules, multitude, solitude. Termes égaux et convertibles par le poète actif et fécond qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. Le poète, on pourrait dire le flâneur, le passant, jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui, comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, on retrouve le corps, qui est le corps de la ville, il entre comme il veut dans les personnages de chacun. Il entre comme il veut dans les personnages de chacun. La grande question baudelairienne, c'est de trouver un équilibre, et c'est d'où le spleen d'ailleurs, le fameux spleen baudelairien. Il faut être plusieurs dans le monde privé. Ben, pour lui, être plusieurs dans le monde privé, ça peut être la recherche, pas loin d'ici, rue Saint-Denis, de la femme aimée, de la prostituée, etc. Être plusieurs dans le monde privé, dans la retraite solitaire, c'est l'expérience amoureuse, c'est la recherche de la prostitution. Mais il faut aussi savoir être seul dans la foule, car ne pas être seul dans la foule, c'est risquer de se massifier, qui est le thème qui va ressortir à propos de la ville en permanence, le thème de la masse. La peur que produit la ville, c'est effectivement de se laisser prendre dans la masse et de créer tous les grands écrivains du XXe siècle, commencé par Elias Canetti, ont écrit sur ces thèmes. Donc je reprends un peu ce que j'appellerais un peu le bréviaire baudelairien. Quand il n'y a personne, il faut être plusieurs. Quand il y a trop de monde, il faut être seul. Mais dans chacun des cas, on voit très bien qu'il y a la nécessité du mouvement, de la marche, de la flânerie, de la déambulation, d'où l'éloge du flâneur qui est permanente chez Baudelaire. Il ne faut ni être trop privé, ni se lever sur soi-même, ni se massifier dans la foule. Il ne faut ni être trop dans la foule, ni être trop seul. Et voilà l'expérience moderne par excellence que propose la ville, qui n'est pas le village. L'expérience moderne, c'est comment faire en sorte que la ville soit vivable au sens de favoriser cette mise en relation qui n'est pas n'importe quelle mise en relation. C'est ça que je retiens de ce passage trop rapide à travers Baudelaire. Il y a donc un mouvement de plus ou moins grande intensification du lien qui est inversement proportionnel au nombre qui est le synonyme de la foule. Je me répète, face à la masse, il faut redevenir un sujet. Face à la solitude, il faut faire corps avec d'autres. Alors me direz-vous, vous nous avez dit, la ville c'est un corps qui peut être articulé différemment, le grand corps, ou la ville c'est effectivement ces petits corps qui cherchent un type de socialisation qui vont permettre d'éviter la trop grande des solitudes, le repli sur le privé, ou la trop grande massification. J'avance encore d'un pas, c'est ma deuxième partie avec Julien Gracq. Qu'est-ce que Julien Gracq nous propose dans La forme d'une ville, qui est un magnifique livre sur la ville de Nantes, comme je l'ai déjà dit. Il nous propose de comprendre que justement, il n'y a pas simplement le corps de la ville, il n'y a pas simplement, comme Baudelaire, les trajectoires qui vont permettre de trouver la plus ou moins bonne socialisation. Julien Gracq montre au contraire que la ville est constituée par des trajectoires, par ces déambulations subjectives que j'ai déjà longuement évoquées, par des lieux qui rendent possible ces trajectoires, et enfin que le lien, la relation entre ces trajectoires et ces lieux crée ou non une image mentale, on pourrait dire une fiction, c'est-à-dire un nom propre de la ville, qui est mon image mentale à moi. Et d'ailleurs, Julien Gracq nous dit, je parle de Nantes comme de la ville, ma ville. Alors, tout d'abord, premier élément, la ville n'existe qu'en fonction des parcours et des trajectoires qu'elle rend possible. Je vous renvoie par manque de temps au livre de Julien Gracq, parce qu'il n'en finit pas d'opposer Nantes à d'autres villes, à Angers, à Bordeaux, qu'il n'aime pas, il l'explique très bien. Donc il y a tout un élément comparatif qui nous prendrait trop de temps. Il montre au contraire que Nantes est une ville, une grande ville de province, que c'est une ville qui a su constituer son autonomie en rupture avec ce qu'il appelle ses racines. Bien entendu, on voit très bien, les racines, c'est la campagne environnante. La ville se constitue sur le mode du déracinement, ce déracinement qui n'est pas sans lien avec le spleen baudelairien. Donc Gracq est convaincu que la vie urbaine est faite de tous les lacis qui la traversent, des parcours, des bifurcations, des décalages, des asymétries, des espaces vides, plus ou moins harmonieux, etc. Il a cette formule que je garde pour la suite de notre réflexion. Il n'y a pas de ville s'il n'y a pas dans une ville des zones de friction, des milieux sous tension. Zones de friction, milieux sous tension. Je le cite, « Ce qui fait de la ville un milieu sous tension, ce n'est pas tellement la concentration de l'habitat, l'état de friction latente et continuelle qui électrise les rapports, la multiplicité des possibles ouverts à l'existence individuelle, c'est pour moi bien davantage l'antagonisme qui règne entre un système de pente centrifuge qui tout mène le noyau urbain vers son émiettement périphérique et en regard la puissante astreinte centrale qui les contrebalance et qui maintient la cohésion de la cité. C'est ainsi que se reconstruit dynamiquement dans ma mémoire l'image de Nantes, un peu à la manière dont l'araignée construit sa toile. » Vous voyez qu'un milieu sous tension, c'est rien d'autre que une espèce de double mouvement centripuge-centripète, nous dirions-nous centre-périphérie. La question, c'est de savoir comment cette mise en relation permanente du centre et de sa périphérie, ou de tous les centres de la ville et de toutes les périphéries de la ville, parce que pour Gracq, il n'y a pas un centre et une périphérie, il y en a plusieurs. Et c'est le deuxième point évoqué, c'est effectivement que la ville est faite des lieux qui ponctuent, qui rythment les trajectoires. Et ces lieux seront différents. Ces lieux ne sont pas nécessairement les monuments. Le monument qu'aujourd'hui, on va faire découvrir obligatoirement aux touristes dans ce qu'on appelle la ville-musée, ce dont vous avez dû parler hier. Non, la ville, effectivement, n'est pas faite de monuments. Et même selon Julien Gracq, une ville n'a pas besoin d'être belle. Il n'y a pas besoin d'une esthétique de la ville. Une ville est faite de ses parcours qui, effectivement, se tissent autour de lieux, autour d'espaces particuliers. Et lui va parler de son lycée, va parler aussi des musées, va parler de la mairie de Nantes, etc. Et bien entendu, des fleuves, etc. Ces fleuves, que ce soit l'Erdre, qui a d'ailleurs été aujourd'hui recouverte et qui est le point de départ d'un certain nombre de propositions urbanistiques qui ne sont d'ailleurs pas sans intérêt. Donc vous voyez que pour Gracq, la forme de la ville est la conjonction de lieux, de parcours, ce qui donne lieu à justement une idée de la ville qui va passer à travers le nom de la ville et tous les noms qui racontent l'histoire de la cité. La présence de la ville, sa forme, sont indissociables de la stratification du temps, de la mémoire passée, de ce palimpseste qui donne au fil des monuments et des noms un parcours, le parcours des noms dans les rues que tous les Parisiens peuvent connaître, il n'y a pas besoin d'être Parisien pour le savoir. C'est ce qu'un philosophe, Hubert Damisch, a évoqué en disant qu'au fond, la ville est peut-être la métaphore du sujet moderne, en évoquant Freud, au registre même de la forme, c'est une seule et même chose que de dire que la ville n'a de réalité qu'historique, n'est qu'une mémoire, n'est qu'une espèce de musée, de stratification de temporalité, et de vouloir qu'elle n'existe qu'au présent. Ainsi en va-t-il à sa façon de l'inconscient, qui ne trouve lui aussi à se manifester que dans l'instant présent, hors de tout effet de palimpseste. Il y a là une remarque intéressante qui nous montre bien que l'approche subjective renvoie la ville à une réflexion sur les formes de subjectivité qui sont les nôtres, sujet moderne que nous sommes. Bien entendu, nous le verrons certainement trop vite tout à l'heure, mais la question de l'urbanisme moderne doit nous poser la question de savoir si effectivement ce type de subjectivité peut ou non trouver sa place, c'est le cas de le dire. Troisième point rapidement évoqué chez Gracq, c'est quels sont ces lieux qui favorisent les parcours, qui entrecroisent le passé et le présent, le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur, tous ces entre-deux qui sont, ce n'est pas simplement l'entre-deux de la socialisation de Baudelaire, qui voulait éviter la massification ou effectivement le trop-plein de solitude. Là, on a un entre-deux qui consiste justement à dire que le rythme urbain est indissociable de lieux de basculement qui favorisent une relation où l'on ne passe pas naturellement, logiquement, de l'un à l'autre, où on ne passe pas, je dirais, en urbaniste d'un lieu à l'autre, mais où on passe de l'un à l'autre subjectivement, en évitant toujours la fusion ou le repli dans l'intérieur. Et ces types de lieux sont extrêmement intéressants, parce que vous voyez bien que ce sont des lieux qui font discordance, ce sont des lieux qui produisent du discord dans, je dirais, le théâtre de la ville, et que produisant de la discordance, ils mettent l'urbain face à la question du type de rencontre qui est la sienne. Est-ce que la ville a à voir avec la discordance sur le plan politique? Bien entendu, la ville doit ou non rendre possible des formes de discordance qui vont rendre possible ou non des conflits, pouvant en produire ou non la guerre civile. N'oublions pas que c'est la question des Grecs. La ville est là pour constituer un corps qui doit favoriser un type de relation évitant la guerre. Mais éviter la guerre ne veut pas dire qu'il y a consensus au sein d'une ville, au sein d'un grand corps. Et je dirais toute la force, tout le génie de la réflexion d'un Julien Gracq est de nous montrer qu'il y a là ces espaces qui ne sont pas des espaces intermédiaires, au sens de simple médiation entre le privé et le public, entre l'intérieur et l'extérieur. Ce ne sont pas des médiations simples. Il ne s'agit pas de glisser de l'un à l'autre. Il s'agit au contraire de ces espaces, je dirais, libres, qui vous permettent de vous soustraire soit au trop-plein du privé, soit au trop-plein du public. En tout cas, vous voyez que c'est l'inquiétude permanente de tous ces écrivains, de Baudelaire à Julien Gracq, qui ont réfléchi sur la ville. Je serai obligé d'évoquer trop rapidement, mais bien entendu, le lieu par excellence, mais il ne faut pas le prendre comme le seul lieu possible, c'est le paradigme qu'on va trouver dans toute une littérature, ce lieu par excellence qui va évoquer ce décentrement. C'est entre deux, entre le privé et le public. C'est bien entendu, il y en a plein dans ce quartier. Ça a donné lieu au magnifique livre de Walter Benjamin. Ce sont les passages qui sont des espaces couverts. Il y en a un tout à côté, d'ici, le passage de l'Ancre, rue Saint-Martin. Il y en a plein dans ce quartier. Les passages, vous en retrouvez à un Nantes. Ça donne lieu à des pages entières de descriptions très fines de Julien Gracq. C'est le passage Pommeret, qui d'ailleurs donne lieu à bien des films de Jacques Demy, pour ceux qui connaissent. Le passage est justement, non pas, je dirais, le modèle que je vais donner, par exemple, de ce que devrait être le lieu urbain par excellence. Le passage nous intéresse parce que, effectivement, le passage est typiquement cette espèce de lieu, il ne faut pas dire non-lieu, mais de lieu qui fait transiter sans faire glisser. C'est-à-dire, ce n'est pas, pour les philosophes, ce n'est pas simplement une médiation au sens dialectique, c'est une espèce d'espace qui rend possible une double soustraction au privé comme au public, mais permet d'y revenir dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que le modèle du passage, très présent chez Julien Gracq, comme chez beaucoup d'auteurs, est extrêmement intéressant, parce qu'il, je pense qu'il correspond justement au lieu qui rend possible l'expérience urbaine par excellence. Gracq a des passages très fins où il montre que justement le passage a une qualité quasiment érotique, parce que nous sommes toujours là. Il appelle l'expérience du frôlement, l'expérience du frottement, c'est-à-dire que nous sommes sortis de l'espace privé. Nous ne sommes pas encore massifiés. Dans la foule, on est pris en masse, on est englué. Le passage, où, comme il dit, on se retrouve toujours pas loin au bonheur des dames, pour prendre des images du XIXe siècle, le passage est effectivement quelque chose qui qui marque le problème de la relation à partir même de la sexualité et de la division entre les sexes. Donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très intéressant que je développe plus dans la conférence écrite, qui est ce thème du passage qui devrait nous amener à réfléchir sur justement cette expérience qui favorise le frottement, la bordure. Une bordure, c'est quelque chose qui renvoie à l'idée d'aborder, mais ni le retrait, ni l'adhésion massive. C'est une expérience spatiale et temporelle qui, une fois de plus, permet de glisser, non pas de glisser du privé au public, mais de créer un type d'espace qui, d'une certaine manière, met en relation, autrement que dans le privé, autrement que dans le public. Il y a là une coupure dont on va voir qu'elle va disparaître, avec une certaine représentation de l'urbanisme moderne. Nous avons là une coupure entre le privé et le public, qui ne veut pas dire qu'il y a soit le privé, soit le public, soit la masse, soit l'individu. Il y a, au contraire, un type d'espace qui est cet espace, nous retrouvons la métaphore corporelle, où ça peut s'articuler, où ça peut se mettre en relation. Et j'en viens trop vite pour la fin de cette deuxième partie, à ce très beau petit livre de Jules Romain, qui vient de ressortir, les livres de 1911. Jules Romain, c'est le théoricien de l'unanimisme, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit justement comment faire corps, comment faire groupe, sans effectivement, lui aussi, c'est la question de Baudelaire, devenir masse ou être trop seul. Et dans ce petit livre magnifique, il passe en revue des rues, la rue Laferrière, la rue Soufflot, la rue du Havre, la rue Royale, des places, des squares, comme il y en a un en face, des passages. Et après, il essaie de réfléchir effectivement sur le lien entre chacun de ces types d'entre-deux, car tous ces espaces sont des entre-deux, la rue elle-même est un entre-deux, puisque j'ai évoqué ce thème, il essaye de réfléchir sur justement le lien entre ce type de lieu et d'espace et les formes d'association qu'elles rendent possibles, c'est-à-dire les formes de relations entre les individus. Donc vous voyez bien que ce que nous apprennent les écrivains au fil de ces quelques remarques trop rapides, les écrivains nous rappellent que la question du lieu est indissociable d'un mode d'association entre les individus. Et ces écrivains nous posent tous la question de la solitude trop forte et de la massification trop forte. Et vous voyez bien que c'est des questions qui restent les questions qui sont les nôtres en ce moment. C'est-à-dire comment trouver un mode de relation qui ne me condamne pas à la plus haute des solitudes et qui ne me condamne pas à la massification. C'est ce que Jules Romain nomme dans ce petit livre qui vient de ressortir chez Gallimard, ces modes d'association, les éphémères. Il va décrire, voyez-vous, en fonction de lieu, des moments éphémères. Ce qu'il appelle, on est en 1911, le manège des cycles, la foule au cinématographe, le rassemblement devant la baraque, le bal du 14 juillet, etc. Ou ce qu'il appelle aussi les vies intermittentes, le récital, l'équipe du Métropolitain, les galeries de l'Odéon, etc. Ce qui m'intéresse, ce que je retiens, c'est effectivement cette mise en relation d'un type d'espace qui donne un rythme particulier à la ville, qui nous pose une double question en termes de lieu, question pour les urbanistes, et je dirais en termes de vivre ensemble. Et donc on voit très bien que la question urbanistique est indissociable de ce débat. Donc maintenant, dans une dernière partie, je vais t'amener à me demander si nous sommes effectivement passés, comme nous le disent un peu vite, me semble-t-il, les urbanistes, de la ville à l'après-ville. C'est-à-dire, au fond, tout ce qu'on vient d'évoquer trop vite, je ne vous renvoie qu'à lecture, à commencer par celle de Baudelaire, est-ce que nous n'avons pas évoqué un peu nostalgiquement une ville qui ne serait plus la nôtre ? Personnellement, je n'en suis pas sûr. Et je voudrais juste évoquer, donc, dans cette dernière partie, un certain nombre de réflexions qui nous montrent que les urbanistes ne font pas l'économie aujourd'hui de la réflexion sur ces espaces qu'ils appellent, eux, de confrontation, d'entrechoquement. Mais c'est la même question qui est posée. Pour bien clarifier ce que je veux dire, je vais prendre un exemple très concret, très récent. Tout le monde connaît un peu Euralille. Euralille, c'est effectivement le problème qui se pose au maître d'œuvre d'Euralille, c'est effectivement de faire communiquer deux échelles, l'échelle de la vieille ville de Lille, d'un côté effectivement de la gare, et le nouveau Lille qui, effectivement, ponctué par les tours d'un architecte connu, Portes en Parc, par le centre des palais des congrès d'un autre architecte connu qui vient d'avoir le plus grand prix d'architecture avant-hier, Coulas. Et donc tout le problème, c'est qu'il y a ces monuments, il y a ces, je dirais, unités architecturales qu'il faut mettre en relation, mais pas dans une simple relation dialectique, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le reste de la ville. Et on voit très bien la question qui se pose au maître d'œuvre, c'est que quelqu'un comme Coulas, l'architecte Coulas, qui pense en fonction de son chef-d'œuvre, le Palais des Congrès, d'un point de vue architectural, c'est un chef-d'œuvre. La question de Coulas, c'est dire, d'ailleurs, vulgairement, il dit « fuck the context », c'est-à-dire il n'a rien à faire du contexte. C'est-à-dire le contexte ne l'intéresse pas, il produit une unité bâtie, et le problème de la réinscription, effectivement, de tout cet ensemble d'unités dans le contexte urbain de la ville, effectivement, doit être pris en compte aujourd'hui par l'urbaniste, à moins qu'on y renonce, qui est peut-être une autre stratégie. Je voudrais simplement, dans le temps qui me reste, c'est-à-dire... un bon quart d'heure, rappeler un certain nombre de questions qui se posent à nous, car je ne sais pas effectivement quel sera le devenir des rythmes urbains. Je veux simplement signaler que par rapport à ce que j'ai pu évoquer, on voit très bien qu'on a de plus en plus affaire à un renversement des rythmes. Mais avant de donner cette impression, je voudrais quand même dire qu'un certain nombre d'urbanistes aujourd'hui, et la plupart du temps ceux qui réfléchissent sur ce qu'on appelle la thématique de l'îlot, sont des gens qui se préoccupent justement de retrouver des éléments qui articulent au sein de la ville. Je pense à l'équipe de Philippe Panerai qui, depuis des années, effectivement, essaye de reconstituer l'idée d'îlot que vous pouvez retrouver dans des expériences très différentes, puisqu'elle va effectivement de la cité haussmannienne à l'expérience la plus moderniste. Mais qu'est-ce que veut dire l'idée d'îlot pour l'urbaniste aujourd'hui ? L'îlot, ben, comme Claudel, l'urbaniste la renvoie à une métaphore biologique, comme le corps, puisque lié au corps, il va parler de nécessité de retrouver une solidarité entre les divers tissus qui constituent la ville. Qu'est-ce que c'est que l'îlot ? C'est l'idée d'une imbrication, d'une solidarité entre les parties et celle d'une capacité d'adaptation, nous dit l'urbaniste. La notion de tissu s'oppose à l'idée d'œuvre achevée ou à l'objet figé. Elle suppose une transformation possible. Donc il s'agit de penser pour l'urbaniste entre la ville des grands tracés, des grands monuments, entre ce qu'on a appelé ici le méta-urbanisme et ce que je dirais l'unité, le détail, qui peut être, comme on l'a dit, le palais des congrès à Coulas, c'est-à-dire l'unité créée par le génial architecte. Il faut arriver, c'est plus le corps individuel et le corps global, il faut arriver pour l'urbaniste à penser entre, effectivement, une réflexion urbanistique qui prend de plus en plus des unités, qui fragmente, et la totalité, pour autant que c'est encore sens, de la ville. Donc, reconnaissons aux urbanistes qui n'ont pas tous renoncé, effectivement, à l'idée de penser des espaces d'articulation. Ces espaces d'articulation, ces zones de friction, ces milieux sous tension, ces zones d'entrechoquement, nous dit effectivement le maître d'œuvre de Ralil. C'est-à-dire il faut penser ces zones qui ne sont pas simplement des intermédiaires qui permettent de réarticuler des échelles, des rythmes, etc. Mais prenons juste quelques temps pour comprendre ce qu'a voulu faire l'ingénieur, et il n'y a là aucun procès radical, car c'est de toute façon ridicule, l'ingénieur futuriste, l'architecte dont Le Corbusier reste justement l'exemple. La volonté de l'ingénieur architecte, n'en finissons pas, c'était d'en finir, il y a des textes de Le Corbusier là-dessus, avec la ville baudelairienne, avec la ville effectivement de la foule, du flux, celle du spleen, celle de l'expérience imprévisible. Avec le modernisme s'opère un renversement de tendance, on va le voir, dont l'îlot, et je reprends mon exemple de tout à l'heure, et dont le passage vont faire les frais. D'une part, le moderniste, et une fois de plus, je ne fais pas de procès d'école, ça n'a pas de sens, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ce qui se met là en place va se prolonger, va se poursuivre, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la société des flux en réseau, qui organise la manière dont nos villes se réorganisent. En même temps que les fonctions, c'est l'habiter, c'est le travail et le loisir, sont désintriqués, séparés. Alors jusqu'à nouvel ordre, la ville les intriquait. Il y a une espèce de fluidification des rythmes, une ouverture immédiate du dedans sur le dehors, et surtout, et c'est bien pour ça qu'il ne peut plus y avoir de passage d'entre deux, une indistinction du privé et du public. Par rapport à toute la question qu'on se posait avec nos écrivains, la question ne se pose même plus. Et Le Corbusier de dire, par exemple, nous avons bien entendu supprimé, c'est le premier entre deux, la rue Corridor, la rue de toutes les villes du monde. Il n'y a plus jamais de cours, mais toujours des vues très étendues de chaque fenêtre, C'est-à-dire qu'au fond, le dehors est là, déjà là tout de suite. Le dehors se voit du dedans. Donc on n'est plus du tout dans cette espèce de conception que j'ai essayé d'évoquer trop vite, celle du passage, où au contraire, il y a une double soustraction vis-à-vis du privé et du public, et qui, à mon avis, renvoie à ce qu'est la spécificité du rythme urbain. D'ailleurs, l'espace de privé dans la cité radieuse, conçu par l'ingénieur moderniste, je l'ai dit, s'ouvre directement à l'extérieur. Vous pouvez avoir en tête plusieurs exemples. On aurait dû, c'est de ma faute, amener une diapositive. L'immeuble est construit sur des pilotis pour mieux, d'une manière, d'évaluer l'environnement urbain. Les lieux de passage que j'ai évoqués tout à l'heure sont encastrés dans l'immeuble lui-même. Les rues ne sont que des voies de communication parallèles. Les fonctions habiter, travailler, loisir sont séparées les unes des autres, etc., etc. Commentaire de l'urbaniste que j'évoquais tout à l'heure, l'urbaniste qui réhabilite aujourd'hui avec d'autres, Christian de Portzamparc, l'architecte qui part d'îlot ouvert, donc l'urbaniste qui réhabilite l'idée d'îlot. L'indifférence de Le Corbusier vis-à-vis du site est voilée dans le discours, car il a une conception spectaculaire où le paysage est tout. Mais de même que la cité radieuse n'a pas de nom et de lieu, rappelez-vous ce que disait tout à l'heure Gracq à propos de la toponymie des villes, l'unité d'habitation n'a pas de sol. Elle le refuse, elle s'en écarte, elle se perche sur des pilotis, elle s'abstrait. Or, le pilotis, nous dit Panerai, ce n'est pas seulement le moyen de hausser le bâtiment, de le rendre plus visible. C'est refuser qu'au niveau du passant, on y vient, il y ait un rapport possible autre que de pure contemplation. Dès lors, tout s'enchaîne. Le pilotis va de pair avec le refus de la rue corridor. La rue éclate en voie différenciée en rue intérieure. La rue ne devant plus être un corridor, le corridor devient la rue. Et arrêtons-nous simplement, après cette longue citation, sur cette fin de citation. Toute référence à une vie urbaine est abolie. Plus de coin, plus d'en face, plus d'à côté. Je dirais moi-même, aucune discordance, aucun passage, aucun basculement, aucune zone de friction, mais des bâtiments ou des lieux juxtaposés et non plus destinés à former un ensemble, ce corps plus ou moins harmonieux, puisqu'on doit passer de l'un à l'autre, on retrouve le problème aussi là de la relation sociale, de l'un à l'autre en évitant l'expérience du passage qui est le ressort même de l'urbanité. Mais voyez bien que là, le problème n'est pas simplement urbanistique. Ce problème, malheureusement, je l'évoquerai trop peu ici, ce problème touche les rapports à la conflictualité au sein même, c'est-à-dire à l'accord et au discord, au sein même de la ville. Et il touche bien entendu le problème de la sécurité, de l'insécurité évoqué durant ces conférences dans la ville, quel que soit d'ailleurs le type de ville. Car, je dirais, le génie de cette idée de passage d'entre deux qui faisait discordance, c'était aussi de pouvoir produire de la discordance qui pouvait être violente entre les individus, mais qui devait toujours éviter la guerre civile ou la massification trop forte. Donc, la question qui se pose à nous, aujourd'hui, si on accepte ce qui vient d'être trop vite dit à partir de l'exemple qui est minoritaire de la cité radieuse, c'est de savoir si ce qu'on appelle aujourd'hui non plus la société urbaine, et beaucoup d'urbanistes aujourd'hui dire « ne parlons plus de ville, d'urbanité, nous sommes dans l'après-ville », et François Choët a peut-être le mérite de dire ça très clairement. Mais nous sommes dans un monde qui n'est plus un monde du lieu, organisé autour d'articulations d'entre deux de passage, mais un monde des flux. C'est toute la question que nous devons nous poser. C'est est-ce qu'au fond, cette société souvent évoquée au cours des conférences précédentes, des flux en réseau du nouvel urbanisme ou de ce qu'on appelle le post-urbanisme, le méta-urbanisme, ne vient pas globaliser, ce n'est qu'une question de ma part, ce qui était pensé dans l'unité d'un bâti chez Le Corbusier. C'est-à-dire, est-ce que nous n'avons pas tous les effets de l'unité d'un bâti de Le Corbusier à l'échelon d'une société ? À commencer par quoi ? Par l'idée qu'effectivement, il y a un double phénomène, qui est un phénomène du fractionnement, de la fragmentation, des fonctions, bien entendu. Et il y a surtout un phénomène, d'une certaine manière, je dirais, de la concordance du privé et du public. On peut aujourd'hui, effectivement, faire l'éloge, et il y a beaucoup de choses à dire sur les télécommunications, etc. Il y a à se poser la question de savoir ce que signifie dans nos sociétés aujourd'hui que la vie privée, que l'espace du privé soit de plus en plus celui où s'organise la relation au public, et pas uniquement dans le télétravail, etc. Il y a donc une réorganisation qui est double, fragmentation effectivement des tâches, comme chez les futuristes, comme chez les ingénieurs modernistes, mais il y a aussi une réarticulation, je dirais, du privé et du public, qui nous met effectivement à distance, me semble-t-il, de cette expérience majeure de l'urbain, mais qui était au contraire, d'une certaine manière, de dissocier au maximum, de rendre possible en tout cas une dissociation du privé et du public. Or aujourd'hui, la société de communication telle qu'elle est décrite la plupart du temps, société de la mise en réseau, c'est une société où effectivement nous n'avons d'autre choix d'un point de vue centrifuge, c'est d'être de plus en plus individu dans le privé, et de l'autre côté, c'est d'être de plus en plus, d'un point de vue centripète, de plus en plus lié à des moments de grands rassemblements collectifs, que ce soit les fêtes du football, les fêtes de l'an 2000, etc. Il ne s'agit pas d'être contre, il s'agit de dire que par rapport à ce que j'ai développé tout à l'heure, un mouvement justement à la fois, je dirais, qui soustrait au privé et au public, un double mouvement, je dirais, centrifuge et centripète, là, on voit effectivement une espèce de distorsion, de dissociation. Nous sommes de plus en plus ensemble liés à des événements communs et nous sommes de plus en plus isolés dans des espaces privés qui nous interconnectent avec d'autres espaces. C'est ce que François Choët appelle la culture du branchement. Et elle a tout à fait raison. Nous sommes dans un monde de la culture du branchement, qui est le monde évoqué certainement ici avec, je ne pourrais pas y revenir par manque de temps, les mégacités, les mégalopoles, la ville globale, etc. La ville globale, ce qu'on appelle la ville globale, la sociologue Saskia Sassen, c'est justement une ville fonctionnelle qui fragmente les fonctions et qui, effectivement, ségrège les formes d'habitat. Or, vous voyez bien comment, là, nous avons quelque chose d'antithétique avec ce que nous avons pu évoquer. L'urbanisme de la société en réseau est double, biface. Est-il ou non l'héritier, d'autres que moi seront plus à même de répondre dans la salle, l'héritier de ce qui était en germe, de ce qui était en gestation, avec l'idée futuriste, avec l'idée d'espèce de repli sur un bâti, sur une unité, sur un ensemble qui ne fait plus coexistant, justement. L'urbanisme de la société en réseau est double parce qu'il fragmente, d'autant plus qu'il interconnaît un type de lieux, mais qui sont toujours des lieux privilégiés. Vous voyez bien qu'effectivement, les lieux qui se prêtaient au passage n'étaient pas, me direz-vous, la ville du 19e, Paris, n'était pas nécessairement une ville au-dessus de tout soupçon en termes de lutte des classes, on le sait très bien, mais la ville était cet espace d'interconnexion où effectivement un certain type de conflictualité était aussi rendu possible. Le devenir de la conflictualité dans les villes, vous le connaissez aussi bien que moi, il est de plus en plus relégué à la périphérie. Ce n'est certainement pas un hasard. Donc, sommes-nous passés de cette société urbaine décrite par nos écrivains avec beaucoup de finesse, et je ne fais que vous renvoyer à leur lecture, sommes-nous passés d'un monde des lieux à un monde des flux, comme on nous le dit à longueur de temps? Je ne sais pas. Je voudrais simplement dégager cinq hypothèses. Cinq hypothèses tout aussi intéressantes les unes que les autres. L'historienne de l'urbanisme, première hypothèse que j'ai déjà souvent citée, François Choët, qui est favorable à l'idée d'après-ville, dans des termes réalistes, tout comme l'architecte Paul Virilio, qui refuse d'ailleurs, lui, cette société des flux qui se met en place, s'accordent l'un et l'autre pour affirmer que de toute façon, et c'est là où j'en reviens à la question d'une lecture subjective indispensable de la ville, c'est-à-dire cette lecture corporelle, la ville ne veut plus rien dire si nous n'exposons pas nos corps dans la ville. Ils s'accordent l'un et l'autre pour dire que la meilleure résistance, effectivement, à un monde des flux, c'est d'abord cette résistance des corps qui sont toujours là. C'est le désir que nous avons ou non de déambuler dans des quartiers comme ici, qui restent des quartiers d'entrechoquement. Tous n'ont pas disparu. On vivrait effectivement, d'un côté, à l'échelle du territoire et du réseau, sont les flux, mais des espaces plus corporels survivraient dans un contexte dont nous aurions besoin corporellement, qui n'est pas celui nécessairement de l'urbanité classique. Première hypothèse, cette espèce de juxtaposition qu'on va retrouver. Une autre hypothèse, celle d'un grand urbaniste italien qui vient d'être édité de l'entre-deux-guerres, Gustavo Giovannini. Lui, il met doublement en garde dès l'entre-deux-guerres, d'une part contre l'hégémonie conférée au réseau technique dans l'organisation de l'espace, avec la prévalence des échelles d'aménagement mondial et territorial et de leur logique de branchement. Et aussi, il met en garde contre ce qu'on appelle, je l'ai évoqué tout à l'heure, la muséification du patrimoine urbain et territorial. Qu'est-ce que veut dire muséification? Je n'ai pas malheureusement pu écouter la conférence d'hier sur le tourisme. Ça veut dire, c'est ce qu'on voit d'ailleurs se mettre en place à Paris, c'est une ville fléchée. C'est une ville où effectivement la déambulation est de plus en plus organisée, où nos promenades sont de moins en moins indéterminées, au sens de Baudelaire, de moins en moins imprévisibles. Donc Giovannini dit, lui, le problème, ce n'est pas la seule survivance des corps errant dans la ville, c'est s'en prendre effectivement à l'hégémonie conférée au réseau technique, c'est s'en prendre à la tendance à la muséification. Vous me direz, peut-être qu'on voit que ce texte a été écrit à la fin des années 30. Le sociologue qui vient d'écrire, lui, trois ouvrages très importants sur la société en réseau, Manuel Castells, pense pour sa part, il écrit sur la société en réseau, il y croit, cette société des réseaux en flux, qu'un équilibre est à trouver entre l'espace des flux et l'espace des lieux. Ici, dans cette partie de la ville de Paris, nous serions dans un lieu, effectivement, nous avons encore le privilège de pouvoir vivre dans un lieu et aussi de nous brancher, de nous interconnecter par ailleurs. Mais il présente la permanence des lieux comme un monde parallèle à celui de l'urbanisme, des réseaux et des flux. N'y a-t-il plus que des expériences parallèles ? Les derniers urbains qui seraient là, je ne crois pas qu'il y a les derniers urbains, nous sommes tous ici, je pense, des urbains, seraient-ils effectivement des survivants ? Je pense qu'il faut là aussi arriver à repenser les questions que nous posait cette tentative faite par les écrivains de penser la ville sous le mode de la fiction, sur le mode d'un rythme particulier, de le repenser dans un contexte de réflexion urbanistique. Et là, le débat, il est aussi chez les urbanistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, trop vite. Ou alors, nous irons, nous dit Castells, vers une schizophrénie structurelle entre deux logiques, celle du lieu, celle du flux. D'autres mettent enfin l'accent, et pourquoi pas, sur la virtualité de la cité futuriste. Ils répliquent en disant, mais vous réclamez de la fiction, mais à travers le virtuel, il y a peut-être de la fiction. La fiction, elle est peut-être déjà là, en germe, à travers... Moi, personnellement, je pense que la ville est indissociable de cette expérience de la temporalité que j'ai évoquée tout à l'heure, que le temps, que l'espace est là comme ce qui doit rendre possible du temps. Il y a de beaux textes de Julien Green sur le Palais Royal, les Jardins du Palais Royal, où il commence par dire « rentrer dans ce jardin, c'est d'abord accepter de perdre du temps ». Alors, nous savons que nous sommes dans un monde, effectivement, où tout est fait pour que nous ne perdions pas de temps. Donc l'expérience urbaine, que nous enterrons un peu vite, est-ce qu'elle n'est pas aussi le fait de cette espèce de tentation que nous avons à dire il en est fini aussi de cette expérience de la temporalité, dont je pense que Baudelaire est l'un des meilleurs exemples. On peut terminer aussi, c'est la cinquième, et je m'arrêterai là, c'est le cinquième scénario. C'est peut-être un scénario un petit peu aristocratique pour quelqu'un qui vit dans un quartier comme ici. En sortant de cette conférence, regardez où vous vous trouvez, dans un quartier où effectivement il y a de nombreux squares, de nombreux passages, tous ces espaces particuliers que j'ai évoqués, un quartier qui est effectivement un quartier d'entrechoquement, où les rythmes urbains sont tout à fait passionnants. À quelques distances, vous avez la mode, la féminité, la place des Victoires, la prostitution, la rue Saint-Denis, Beaubourg, le tourisme. Vous avez le Brancher, vous avez les galeries d'art moderne, vous avez le Sentier Turc, le Travail au Noir, vous avez l'école où nous sommes, vous avez la technique. Vous avez encore un quartier, comme il y en a beaucoup ailleurs à Paris, comme il y en a beaucoup ailleurs en France. Vous avez un quartier, je dirais, non pas d'interconnexion, il ne se rend pas du tout impossible l'interconnexion, mais je dirais de très forts entrechoquements urbains. La question que je me pose, et je m'arrêterai là, c'est est-ce que nous sommes nous-mêmes, puisque j'ai pris l'angle de l'approche subjective, suffisamment capables, comme le dit Virilio, de défendre l'expérience corporelle, l'expérience urbaine, qui est celle de la ville, dont nous pouvons encore jouir. Ce n'est pas vrai. Nous ne vivons pas tous à Los Angeles. Essayons de parler de la ville comme il se doit. Et essayons de ne pas dire, comme le dernier donc prix, l'équivalent du prix Nobel d'architecture, M. Koulas, le contexte n'a pas de sens pour mon œuvre. Merci de votre attention.
Nous allons passer aux questions maintenant.
Oui, une question là.
Puis une question là-haut.
C'est pas dans le bon sens. Pierre Delot, justement, l'exposé qui vient d'être fait résonnait singulièrement avec l'un de vos prédécesseurs ici à cette tribune qui nous parlait de Los Angeles précisément, où un Français qui marchait à pied sur les trottoirs apparaissait complètement incongru pour deux raisons. D'abord parce que l'articulation de la ville, les distances à parcourir sont absolument... absolument inaccessible pour un piéton lambda, et deuxièmement à cause de l'insécurité qui rend cet exercice particulièrement dangereux. Donc je voulais dire là que est-ce que vous avez suffisamment insisté dans la structuration de la ville actuelle sur la voiture, le véhicule automobile, qui est d'une part effectivement un moyen de créer des flux, bien évidemment ça c'est un truisme, mais aussi qui crée un isolement jusqu'au cœur même des activités intimes de la ville, c'est-à-dire qui nie les lieux de passage, qui nie le croisement, et la forme ultime, c'est le drive-in, qui peut aller jusqu'à des types d'activités absolument extraordinaires. Donc est-ce que la reconquête de la ville passage, elle ne passe pas tout simplement par une meilleure maîtrise de l'automobile, ce qui, parallèlement, permettrait peut-être d'aménager un petit peu la qualité de l'air dans les villes?
Oui. Non, merci. Enfin, je vais vous apporter la réponse plus nettement que je pourrais le faire. Mais je reviens à la question qui est la mienne. D'abord, j'ai donné l'impression certainement de parler essentiellement de ce qu'on appelle la ville du 19e siècle, la ville post-haussmannienne, la ville baudelairienne. Je crois qu'il faut être bien conscient, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Julien Gracq sur Nantes, c'est qu'il y a une diversité de villes. Apprenons déjà à penser, non pas en termes d'urbanisme global, mais en termes de diversité de villes. Et respectant aussi, je reviens à Los Angeles après, les expériences qui sont en train d'être faites de temps à autre pour essayer de recréer du tissu urbain là où il avait disparu. L'expérience, je l'évoquais tout à l'heure, la plus intéressante, c'est celle qui est en train de se faire à Saint-Nazaire. C'est une très vieille expérience. Où vous voyez bien ce que c'était que ce port Saint-Nazaire, ville sinistrée, avec cette espèce de bâtiment sous-marin invraisemblable issu des guerres, où un architecte d'origine espagnole avec un maître d'ouvrage français est en train de penser quelque chose d'extrêmement intéressant. Hein, donc, d'abord, valorisons, comme vous le dites très bien, ce qu'on peut gagner par rapport à ce qui nous paraît comme l'expérience délicate, hein, comme l'expérience invivable, la ville invivable. Et j'en viens à Los Angeles. Moi, ma question, une fois de plus, ça n'a aucun sens de faire le procès de Le Corbusier, des ingénieurs, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie qui était la leur. D'une part, on fragmente les fonctions. Justement, la voiture, elle doit servir uniquement le mieux possible à faire communiquer. Ce n'est pas le problème de calmer ou non la voiture, c'est le problème qu'elle ait ses espaces à elle pour que ça communique le mieux entre l'habitat et l'espace des loisirs, par exemple. Bon, on voit bien comment de nombreuses cités sont conçues sur ce mode-là. Donc le problème, ce n'est pas, voyez-vous, la voiture ou pas la voiture, le problème, c'est quel type d'usage on donne à la voiture. Et l'autre phénomène qui me paraît très important, c'est effectivement, on le voit bien aux États-Unis, c'est ce que j'ai évoqué là, il faudrait y revenir, c'est la manière dont de plus en plus, mais on voit comment ça correspond à une évolution des mœurs de nos sociétés démocratiques, il ne faut pas se faire non plus d'illusions. Quand on a dit individualisme, on n'a pas dit grand-chose. Mais on voit très bien comment, de plus en plus, on vit dans un chez-soi, dans un entre-soi, où on s'interconnecte, et où de plus en plus les événements collectifs sont les événements collectifs imposés. On l'a bien vu ces dernières années. Donc il y a un double mouvement que j'ai déjà évoqué, centrifuge et centripète. Sur Los Angeles, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je dis simplement, ne nous trompons pas. Beaucoup de choses ont été dites par des spécialistes des États-Unis là-dessus. La société américaine n'est pas une société urbaine. C'est une société rurale qui a su produire effectivement un type de ville par rapport à des fonctions données. Mais la société américaine ne peut pas être le modèle, pour l'instant, de quiconque veut effectivement se battre pour une reconquête, je ne dis pas de la ville du 19e siècle, je dis simplement d'une ville qui favorise ce type d'entrechoquement, etc. Ça, nous n'avons pas le choix, et nous voyons d'ailleurs de nombreux architectes urbanistes s'en préoccuper. Donc je pense qu'il faut c'est plutôt éviter de dire qu'il y a un modèle hégémonique qui s'imposerait. Hein ? Il y a une manière de travailler des architectes qu'il soit américain ou pas, qui est une manière issue effectivement d'une représentation, je dirais unifiée de ce qu'ils produisent. Je produis un objet du design au paquebot que représente la cité radieuse. L'image du paquebot de Le Corbusier est extraordinaire. C'est un paquebot, ce qu'ils produisent, c'est un paquebot seul dans un environnement liquide. Vous voyez, cette image-là, c'est ça. Est-ce que nous sommes en train de passer de cette conception-là, qui avait sens au niveau d'une nudité bâtie ou d'un élément, hein, qui est celui du design, par exemple, à niveau d'une conception d'ensemble? J'en suis pas sûr. Je crois, en tout cas, qu'en Europe, nos urbanistes, je pense qu'il y en a dans la salle, ceux qui ont parlé ici, ont ce souci-là. Mais je pense qu'il est dangereux, simplement, de prendre la question de l'urbanisme, du méta-urbanisme, comme devant lui-même imposer toutes ses règles, comme si on n'avait rien à apprendre, effectivement, du rythme urbain de celui qui y habite. Je dirais que c'est un vieux mot d'ordre, car rien de très original de parler du respect de l'habité. Je dis, le problème, c'est quoi respecter le rythme urbain? C'est ce type de question qu'il faut poser et que se pose obligatoirement aujourd'hui un certain nombre de maîtres d'œuvre, paysagistes ou non, quand c'est par Alexandre Chemetov et autres. Il y a quand même un certain nombre de professionnels. Je ne veux pas là donner l'impression d'opposer le professionnel qui regarderait du côté des États-Unis. Et tout n'est pas à critiquer aux États-Unis, loin de là, ou au Canada. Je dis ça pour les amis canadiens dans la salle, puisqu'il y en a. Et voilà, et avec une cité européenne qui serait rêvée. La cité européenne, regardez ce que deviennent beaucoup de villes italiennes, ça devient aussi des villes-musées. C'est aussi le risque de Paris, cette ville que moi j'appelle la ville fléchée, où on vous impose la déambulation. Pour montrer d'un mot comment un maître d'œuvre aujourd'hui peut se poser au fond les questions de l'écrivain d'une autre manière, je cite le maître d'œuvre de Ralil, Subilo. Il faut, il le dit contre Coulas, l'architecte qui vient d'avoir le prix que j'ai évoqué, organiser la confrontation dans un même espace d'échelles radicalement différentes du phénomène urbain. Comment créer un lieu là où se superposent, s'entrechoquent, sont juxtaposés l'échelle internationale des infrastructures à grande vitesse, TGV autoroute, l'échelle métropolitaine, les voies rapides, les transports express régionaux, le métro, les grands parkings, l'échelle urbaine, boulevard, tramway, et l'échelle domestique du quartier. Quand les urbanistes posent des questions comme ça, ils les posent, je dirais, même s'ils sont des hauts fonctionnaires et tout ce qu'on voudra, des gestionnaires, ils le posent de manière, me semble-t-il, assez respectable. Quant aux États-Unis, n'oublions pas que pour Claudel, pour beaucoup de gens qui y vont, New York n'est pas une ville qui laisse indifférente l'Européen. Il faudrait en discuter un peu plus.
Bonsoir et merci pour votre exposé sur les rythmes urbains que vous avez surtout évoqué sous l'aspect poétique, abstrait ou matériel en utilisant des métaphores. Vous ne nous avez pas parlé du stress dans les grandes villes où l'homme est de plus en plus pressé et soumis à l'impitoyable dictature de la montre. En effet, nous sommes toujours à la recherche du temps, qu'on ne trouve pas toujours hélas. Le stress s'empare de plus en plus de la population urbaine au fur et à mesure que les rythmes s'accélèrent et compliquent davantage ces conditions d'existence. Qu'en pensez-vous? Je vous en remercie.
Vous avez raison, je vous remercie de votre question. Vous avez certainement senti que mon parti pris était justement de m'inquiéter du stress montant. Enfin, je vois que quand même des gens ont le temps de venir, et je crois que ce n'est pas que ce soir, donc je pense que le stress n'est quand même pas total. Je ne sais pas si ces conférences déstressent, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, je suis comme beaucoup d'entre nous, je suis inquiet de cette opposition qu'on institue entre un monde des flux, mais qui se met en place nécessairement, ce que François Choët appelle la culture du branchement, et cette idée que nous ne serions plus que les survivants de ces espaces-lieux où, effectivement, on pourrait stresser un peu moins ces espaces célébrés par le vieux Jules Romain. Hein, ces espaces d'agrégation qui ne sont pas massifiants et qui ne sont pas justement qui nous renvoient pas à notre propre solitude. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir essayé, mais beaucoup trop vite, de valoriser à travers ces quelques écrivains ce qui pourrait être, mais on pourrait évoquer bien d'autres noms, ce qui pourrait être une vision positive du rythme urbain. Voyez, vous-même tout de suite, vous nous donnez une idée, je veux dire, et vous avez raison, vous soulignez la dimension négative. Je dis, et une fois de plus, nous sommes dans un quartier certainement très privilégié. Est-ce qu'il faut dire le bon rythme urbain? Oui, le mot bon n'est pas négatif. Le bon, c'est le cas de le dire, mais je veux dire, il n'y a pas de honte à dire ça. Il y a peut-être un bon rythme urbain et on peut encore le trouver. C'est un rythme compliqué, ça s'apprend. Ça s'apprend à déambuler, à vivre en ville, ça s'apprend. Mais faites l'expérience en sortant d'aller d'ici par le square en prenant tous les passages et de remonter jusqu'à la place des Victoires. Vous tournez autour de la place des Victoires, ce n'est qu'une expérience de dissymétrie dans un espace qui se veut un espace arrondi. C'est une des plus belles places de Paris. Vous continuez sur le Palais Royal. Là, me direz-vous, vous parlez en aristocrate comme quelqu'un qui jouit encore d'une ville qu'il peut aimer. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense qu'ici, il y a des gens de la province. Il y a de magnifiques villes de province où l'expérience urbaine est encore possible. Et si j'ai pris Julien Gracq comme exemple, qui valorise d'ailleurs Strasbourg comme ville, qui valorise aussi Lyon, si j'ai pris Julien Gracq, c'est que justement, je voulais signifier, parisien moi-même, qu'on peut être urbain ailleurs qu'à Paris, au sens où je l'entends.
On a une dernière question, monsieur. Oui, moi je voulais intervenir donc encore sur le problème du rythme. Donc quand vous le mettez au singulier, je ne comprends pas vraiment de quoi vous parlez. Peut-être c'est trop théorique pour moi. Pour moi, il y a effectivement des rythmes urbains. Et je voudrais un peu rebondir. Par exemple, dans le dictionnaire du Vieux Paris, effectivement, il y a tout un trajet, enfin, il y a des trajets dans tous ces quartiers, le 3e, le 10e, etc. Et bien, on s'aperçoit maintenant qu'on ne peut plus les faire parce que beaucoup de ces passages sont fermés. Avec des barrières, d'ailleurs, qui sont très dangereuses parce que c'est avec des doubles. Et donc, je voulais rebondir sur ce problème, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rythme qui s'impose, c'est celui de la voiture. Par exemple, on voit aujourd'hui des petits panneaux traversés en deux temps. Or, il n'y a aucun. Entre ces deux temps, il n'y a aucun espace de protection pour des gens qui auraient, je ne sais pas moi, des paquets, voire même une poussette d'enfants, etc. Donc j'estime qu'il y a quand même là non-assistance à personne en danger de la part des urbanismes ou des politiques. Deuxièmement, alors j'y vais peut-être un peu fort, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de besoins fondamentaux qui ont été, érigés... dans la sphère privée et qui ne peuvent plus satisfaire dans la sphère publique. Je pense aux nombreuses fontaines qui marchent de moins en moins, qui sont de moins en moins réparées, même si on fait de la publicité dans le Paris, le journal, mais publicité qui est fausse. Deuxièmement, il y a aussi le problème des Vespasiennes, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trouver un endroit, si on est amoureux, par exemple, pour aller s'embrasser, ou pour, on ne peut plus trouver un endroit où ça ne sent pas mauvais. Troisièmement, je voulais... Pour vous m'en dire là, c'est-à-dire que c'est un problème en fait de contact entre les générations. C'est-à-dire que la ville, effectivement, a sacrifié ce rapport entre les générations. Elle a sacrifié également donc le plaisir de vivre en ville pour certaines de ces générations. C'est-à-dire les générations en fait les plus extrêmes, soit les plus jeunes, soit les plus âgés, qui eux donc. Et pour finir, donc juste un exemple. Bon, moi j'habite un tout petit peu plus vers l'est, donc mais je suis parisien, donc je parle de ce que je connais. Et effectivement, j'ai l'impression que personne n'a été associé réellement, d'une manière démocratique, au grand projet donc d'urbanisme de l'est parisien. Il y avait plein d'espaces en friche. Il y en a de moins en moins. Et on aurait pu effectivement là avoir l'occasion de fabriquer vraiment une autre ville avec. Des rythmes qui s'harmonisent. Voilà, merci.
Merci de votre question. On avait compris que vous étiez un fin parisien. Je vais répondre doublement. Vous me permettez d'éclairer une chose que je n'ai peut-être pas pu dire suffisamment sur le problème des rythmes. Et puis je reviendrai sur le problème que vous posez clairement, de la démocratie, tout simplement. Et je crois que ça va plutôt dans le sens de ce qu'on a pu essayer de dire. Quand je parle de ces espaces qui ne sont pas intermédiaires, justement, ceux dont parle Benjamin, ceux dont parle Baudelaire ou Gracq, Passage Pommeraye, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils décrivent un espace qui n'est pas l'espace de la masse, du stade, de la gare, de là où ça fait foule, hein, qui nous plaît pas toujours, qui ne plaît pas nécessairement, et qui n'est pas l'espace privé, dont j'ai aussi besoin de sortir. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un dehors, ni un... Et ils décrivent ça tous, je n'ai pas pu le dire, mais comme des espaces où justement j'ai le choix du rythme que je veux, personnel. Hein, mon parti pris était subjectif dans cette conférence, et j'y reste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ce paradigme, je dis bien que c'est un paradigme, il ne faut pas dire qu'il n'y a que le passage, ça serait ridicule. Vous avez raison, beaucoup des passages repeints sont d'une tristesse absolue. Hein, on aimerait les voir un peu plus érodés, un peu plus vieillis, ils ont été mal repeints. Bon, enfin, ça, on ne va pas avoir des débats d'apothicaire là-dessus. Je dis simplement, quand ils prennent ces espaces qui sont des espaces, j'aime beaucoup le terme de Gracq, des zones de friction, de mise en tension. Hein, tout ça, c'est pas pour rien que c'est un peu électrique comme vocabulaire. il montre un espace où moi, sujet, accompagné ou non, en famille ou avec mon amoureuse, comme vous avez dit, je peux recommencer quelque chose sans avoir l'impression d'être chez moi ou d'être l'otage d'un groupe. Parce que la question du groupe dans toute l'histoire du XXe siècle, c'est quand même très important. Et n'oublions pas que la ville, l'expérience de la ville, c'est l'expérience, et c'est pour ça qu'elle est si dure pour certains au XIXe, c'est la sortie du village, c'est la sortie du groupe. C'est la sortie de l'espace où tout le monde se reconnaît, où tout le monde se connaît. Et n'oublions pas que l'expérience, le philosophe Emmanuel Lévinas le disait toujours, le grand philosophe, l'expérience de la ville la plus formidable, c'est l'expérience de l'anonymat. Hein, c'est que j'y trouve une liberté que je ne trouve pas ailleurs. Hein, il y a un livre d'un théologien américain qui s'appelle Harvey Cox là-dessus, qui est tout à fait remarquable. Effectivement, l'expérience de la fête est une expérience qui passe par un certain anonymat, la fête, ce qu'il appelle la fête urbaine. C'est très important parce que cette expérience de l'anonymat, c'est celui que nous n'avions pas, je caricature, mais dans la société traditionnelle. Donc vous voyez, ces espaces intermédiaires, vous avez raison, il faudrait dire les rythmes. Mais ce que j'essaie de dire avec Grac, c'est que pour qu'il y ait des trajectoires, il faut qu'il y ait des lieux, et vous avez raison, ils ne vont pas si bien que ça, qui rendent possible ces trajectoires. Il ne suffit pas de dire trajectoire, comme dit Baudelaire. Baudelaire ne s'arrête pas sur les lieux. Ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai continué avec Julien Gracq, c'est que Gracq insiste constamment, c'est nous avons besoin de lieux. Autrement, il n'y a pas d'image mentale de la ville. Et sans image mentale, le jour où vous serez plus parisien, au sens de ne plus avoir d'image mentale de Paris, et vous savez très bien que dans certaines banlieues, ben, il n'y a pas d'image mentale de ces cités qu'on beau s'appeler Rimbaud ou Baudelaire, elles ne produisent pas d'image mentale. Et c'est bien pour ça qu'on les appelle cités, et qu'on les appelle Rimbaud, Baudelaire, et tous les noms de ceux qui devraient produire de l'imagination dans la tête. Quant à votre deuxième question, ben, décisive, la ville, ben, pourquoi c'est un thème qui, pour moi, déterminant, et que toutes les questions sont là, la ville, elle n'a d'autre sens que politique. La naissance de la ville, de la cité, l'oubliez jamais, chez Héraclite, polis, veut dire polémos. Alors, je n'ai pas assez insisté, ce n'était pas le but de ma conférence. La cité, c'est l'espace qui doit rendre possible les conflits sans que ça tourne en guerre civile. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Alors, ça n'a pas été, je n'ai pas suffisamment insisté là-dessus. Parce qu'effectivement, la ville, elle doit rendre possible des désaccords, ces fameuses discordances que j'ai évoquées. On n'est pas là dans une ville pour à nouveau retrouver des grands accords, être d'accord sur, etc. Ces espaces de friction, ce n'est pas pour rien qu'ils les appellent de friction, hein, Julien Gracq. Ces espaces sont des espaces de friction, avec moi et moi-même, avec moi et mes proches, avec moi et ceux que je ne connais pas. C'est aussi des espaces de connaissance, d'interconnaissance, de ceux que je ne connaissais pas. Alors peut-être que... Ben, ça, c'est bien parce qu'il n'est pas un espace de friction qu'il faut qu'il y ait des policiers, parce qu'il est un espace où tout peut tout de suite dégénérer. Non, voilà, ça c'est l'autre débat. L'autre manière de reprendre tous ces débats sur la ville et la non-ville, c'est quel type de violence émerge, comment, où. Et moi, ce qui m'intéressait, dans l'exemple que nous donnent les écrivains, à commencer par Jules Romain, le premier, vraiment, j'ai découvert ce livre récemment pour préparer cette conférence, c'est un magnifique livre, Puissance de Paris. Pour les philosophes, il y a une connotation spinoziste qui est remarquable. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lieux qui vous mettent en orbite quelque part, hein, c'est extraordinaire. Et lui, effectivement, s'intéresse à ces lieux qui mettent en groupe sous la forme de la discordance. C'est-à-dire, je peux être en désaccord sans qu'on s'entretue. Et je reviens à mes Grecs. La cité, elle est là pour qu'on ait des conflits, qu'on délibère sans s'entretuer. La question, aujourd'hui, effectivement, c'est quel modèle ? J'en sais rien. On a tendance à s'égréger, parce qu'on a tendance, comme on l'a dit depuis le début tout à l'heure, à distinguer les fonctions. Et si on distingue les fonctions, l'habiter, le travail, la communication, ce que vous dites sur les voitures, vous avez raison. Mais je termine là. Apparemment, vous avez un discours un peu militant et que j'entends très bien. Non, mais que je respecte. On va avoir une élection à Paris, que je sache. Il faut voir sur quel mode on en parle actuellement. Je ne vais pas insister. On en parle sur un problème de personnes. Un point, c'est tout. Il est évident que nous sommes des citoyens et que nous sommes en droit de revendiquer une ville plus urbaine. Je pense que ça doit peut-être faire partie aussi, tout le monde est désespéré du politique, ben peut-être, mais peut-être que nous, urbains, dans l'Est, ailleurs, et même ceux qui vivent hors de Paris, nous avons à nous préoccuper peut-être d'aller dire, même si nous ne sommes pas membres de partis que nous ne pouvons pas voter pour tel ou tel futur élu, nous avons peut-être à aller mettre notre grain de sel. Devenir urbain, c'est aussi redevenir soi-même un peu politique, non pas au sens politicien, au sens de notre implication dans la cité. Il est évident que sur Il y en a plein là dans la rue Saint-Martin qui s'y prêtent, sur la présence des cars dans la ville qui ne fait qu'augmenter et qui ne fera qu'augmenter puisque nos villes deviennent de plus en plus touristiques. Hein ? Donc, sur tous ces débats-là, il faut les avoir. Le moment est rêvé, je suis désolé. Enfin, rêvé,